Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés. Qui croit et qui reste pieux, il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 30 avril 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information et quelques extraits du discours prononcé par le leader de la révolution islamique à l'occasion de la journée mondiale d'Al-Rots, le dernier vendredi du mois de Ramadan. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Des millions de personnes ont participé partout dans le monde, à travers l'Iran, ce vendredi 29 avril, à la grande marche de la journée mondiale de Quds. Le PIB français stagne au premier trimestre 2022 et le Conseil de sécurité a approuvé vendredi une nouvelle prorogation technique du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL. C'était les principaux titres. En voici le journal. Des millions de personnes ont participé partout dans le monde et à travers l'Iran, ce vendredi 29 avril, à la grande marche de la journée mondiale d'Al-Rots, en signe de solidarité avec le peuple opprimé de la Palestine, condamnant les atrocités israéliennes dans les territoires occupés. Les rassemblements en Iran, organisés par le Conseil de coordination de la propagation islamique, ont commencé à 10h, heure locale, 5h30 GMT, à Téhéran, et dans quelques 900 autres villes et villages de l'Iran. Les manifestants veulent faire entendre au monde entier la situation ô combien déplorable du peuple palestinien dont les droits sont bafoués par le régime sioniste. Ils condamnent haut et fort l'occupation de la Palestine par Israël depuis des décennies et les atrocités de ce régime contre les Palestiniens. La journée mondiale de Quds est une marche annuelle destinée à protester contre l'occupation par Israël des territoires occupés de la Palestine et à exprimer la solidarité avec le peuple palestinien. Elle a été instaurée en 1979 par l'architecte de la République islamique d'Iran, le défunt imam Khomeini, que son âme repose au paradis, et se déroule le dernier vendredi du mois béni de Ramadan. Cet événement est considéré comme une opportunité pour tous les épris de la liberté à travers le monde, quelle que soit leur religion, d'exprimer leur soutien à la cause palestinienne et leur colère envers le régime d'apartheid de Tel Aviv, qui occupe les territoires palestiniens depuis 1967. Les tensions restent vives dans les territoires occupés de la Palestine au cours des dernières semaines. La situation est particulièrement tendue à Quds, où se trouve l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa et où les forces israéliennes y poursuivent leurs attaques contre les fidèles palestiniens. Les troupes israéliennes y ont à plusieurs reprises attaqué des fidèles palestiniens alors qu'ils se rassemblaient pour la prière pendant le mois béni de Ramadan. Les groupes de la résistance palestinienne ont condamné la profanation de la mosquée Al-Aqsa par les militaires israéliens et promis une réponse ferme. Des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Quds ont fait 42 blessés vendredi 29 avril dans la matinée. Parmi eux, 22 ont été transportés dans un hôpital de Quds, a précisé le Croissant Rouge palestinien. Au cours des deux dernières semaines, de violents heurts ont fait plus de 250 blessés palestiniens dans et autour de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Ces heurts ont fait craindre une escalade de violence entre Israéliens et Palestiniens. Le Hezbollah est en alerte maximale et prêt à renforcer l'équation de dissuasion, a averti Saïd Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais, ce vendredi 29 avril, à l'occasion de la Journée mondiale d'Al-Quds. Depuis la création de l'entité usurpatrice sioniste, ses sponsors, ses maîtres et le mouvement sioniste est œuvré pour stabiliser, consolider et protéger cette entité et ont travaillé sur de nombreuses voies, y compris celle de l'oubli. Aujourd'hui, à travers les événements des dernières années et de cette année, nous confirmons que le chemin de l'oubli a échoué. Ils ont œuvré depuis 1948 sur l'option de la désespérance à l'égard de la restauration de Quds et des lieux saints. La trahison officielle arabe à l'encontre de la Palestine et la normalisation visent à désespérer l'Oumma islamique. A noter Saïd Hassan Nasrallah en évoquant les défaites consécutives des Arabes. Aujourd'hui, le peuple palestinien est plus optimiste et plus sûr que jamais que la victoire sera réalisée. La question palestinienne fait partie de notre religion, notre foi, notre dignité. Nous sommes une nation qui n'abandonne pas sa religion et sa dignité, a ponctué Saïd Hassan Nasrallah avant d'affirmer que la confrontation militaire a prouvé qu'Israël n'est pas un destin à subir et peut être vaincu. L'échec des voies de l'oubli, de la désespérance et de l'épuisement est dû en premier lieu aux opérations de la résistance au cours des dernières décennies. Lors de l'année en cours, les actes des combattants de la résistance se sont développés, suscitant la crainte de l'ennemi qui tient à les analyser. A dit Saïd Hassan Nasrallah en notant que les opérations antisionistes dans les territoires occupés en 1948, notamment celles menées individuellement, a secoué violemment l'entité sioniste. Les opérations en solo ont dévoilé la fragilité et la vulnérabilité de ce régime et l'incapacité des services de sécurité à démasquer les auteurs de ces opérations. Les opérations individuelles constituent un développement dangereux pour l'occupation, vu qu'elles ne nécessitent pas de cellules d'opération et de grandes capacités. Ces opérations ont ébranlé la confiance des Israéliens en leur armée et gouvernement, ce qui aura des répercussions importantes, indique le secrétaire général du Hezbollah. Plus loin dans ses propos, Nasrallah a évoqué la normalisation avec l'entité qu'il a vivement condamnée à titre de pire hypocrisie. C'est la pire hypocrisie que de prétendre que la normalisation sert les intérêts du peuple de la Palestine. Je sais que l'Iran a envoyé un message aux pays normalisateurs comme quoi la moindre agression contre l'Iran sera ripostée et que les normalisateurs n'en échapperont pas. Et ce message, les sionistes l'ont bien reçu et lui d'avertir. Et qu'Israël sache que ce sera l'Iran qui frappera en premier. Et les préparatifs sont largement réunis. Nasrallah est revenu sur les agissements des normalisateurs en Irak, à quoi il faudrait couper court. Le Hezbollah a organisé ces dernières semaines des manœuvres militaires tacites, car si Israël croit pouvoir porter atteinte au Liban, puisqu'il est en période électorale, qu'il se détrompe tout de suite. Notre réponse sera directe et rapide, a mis en garde le secrétaire général du Hezbollah. La croissance de l'économie française a été nulle sur le premier trimestre de cette année, selon les chiffres communiqués vendredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE. Au premier trimestre 2022, le PIB marque le pas 0% en variation trimestrielle après plus 0,8%, en lien avec la faiblesse de la demande intérieure, annoncée l'INSEE. Cette estimation est bien inférieure aux attentes. L'INSEE avait en effet prévu une croissance de 0,3%, tandis que la Banque de France tablait sur une petite progression du PIB de 0,25%. En avril, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,8% sur un an contre 4,5% un mois plus tôt, selon l'estimation provisoire publiée vendredi par cet institut. Cette hausse de l'inflation serait due à une accélération des prix des services, de l'alimentation et des produits manufacturés. les prix de l'énergie, restaurés en forte hausse sur un an, a expliqué l'Institut. Le Conseil de sécurité a approuvé vendredi 29 avril une nouvelle prorogation technique du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL. Les membres du Conseil n'ayant pu trouver de consensus sur un renouvellement substantiel du mandat. La résolution 2629, qui a été unanimement approuvée par les 15 membres du Conseil, décide de prolonger le mandat de la MANUL de 3 mois jusque 31 juillet 2022. La résolution stipule que la MANUL doit être dirigée par un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies basé à Tripoli et demande au secrétaire général de nommer rapidement un représentant spécial. La résolution demande également que les rapports du secrétaire général sur les activités de la MANUL au Conseil de sécurité ne soient plus soumis tous les 60 jours, mais tous les 30 jours. La résolution appelle toutes les parties à s'abstenir de toute action qui pourrait compromettre le processus politique ou le cessez-le-feu du 23 octobre 2020 en Libye. Elle souligne qu'il ne peut y avoir de solution militaire en Libye et exige le respect total de l'embargo sur les armes par tous les États membres. La résolution 2629 entérine la 4e prorogation technique du mandat de la MINUL depuis septembre 2021. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le leader de la révolution islamique exhorte la Cisjordanie et la Palestine historique à passer à l'acte. À l'occasion de la journée mondiale d'Al-Quds, le dernier vendredi du mois béni de Ramadan, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a prononcé un discours dont nous vous lisons quelques extraits. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toute louange appartient à Dieu, Seigneur de l'univers, et la paix et les salutations soient sur le maître de toute l'humanité et l'être humain le plus honorable, notre maître, Muhammad al-Mustafa, le dernier messager, sur sa ligne pure, sur ses compagnons élus et sur ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement. Salutations à tous les frères et sœurs et aux musulmans du monde entier. Salutations à la jeunesse du monde de l'islam. Salutations à la jeunesse courageuse et zélée palestinienne et à tout le peuple de Palestine. Une fois de plus, la journée d'Al-Quds est arrivée. La noble Quds appelle tous les musulmans du monde. La vérité est que tant que le régime sioniste, usurpateur et criminel, dominera sur Al-Quds, tous les jours de l'année devront être considérés comme la journée de Quds. La noble Quds est le cœur de la Palestine et tout le pays occupé de Palestine, depuis la mer jusqu'au fleuve, est une continuation d'Al-Quds. La nation palestinienne prouve chaque jour qu'elle s'est levée et se lèvera contre l'oppresseur avec un courage exemplaire. La jeunesse palestinienne agit comme un bouclier défensif pour la Palestine avec son dévouement et le signe prometteur d'un avenir différent. Nous célébrons la journée d'Al-Quds de cette année alors que tout signale une nouvelle équation dans le présent et l'avenir de la Palestine. Aujourd'hui, cette armée criminelle a été forcée de transformer sa forme agressive en une forme défensive. Aujourd'hui, dans l'arène politique, le plus important protecteur de ce régime usurpateur, à savoir les États-Unis, ont eux-mêmes subi des défaites consécutives. Les activités à Jenin ont rendu le régime sioniste fou de rage. Et ce alors qu'il y a 20 ans, le régime usurpateur a tué 200 personnes dans le camp de réfugiés de Jenin en réponse à la mort de quelques sionistes à Nahariya, dans le but de clore définitivement l'affaire de Jenin. les mouvements combatifs du peuple de Palestine dans les deux parties nord et sud des territoires de 1948 et en même temps les rassemblements massifs en Jordanie et dans l'Est Al-Rots, la courageuse défense de la mosquée Al-Aqsa par la jeunesse palestinienne et les manœuvres militaires à Gaza indiquent que toute la Palestine est devenue une scène de résistance. À l'heure actuelle, le peuple de Palestine est unanime et favorable à la poursuite du djihad. Ces incidents et ce qui s'est passé en Palestine ces dernières années marquent la fin de tous les projets de compromis avec l'ennemi sioniste, car aucun schéma ou plan concernant la Palestine n'est réalisable sans la Palestine ou sans le consentement de ses propriétaires, à savoir les Palestiniens. Cela signifie que tous les anciens accords, comme l'accord d'Oslo, la proposition arabe de deux États, l'accord du siècle et les récentes tentatives humiliantes de normalisation des relations, sont annulés. Bien que le régime sioniste soit à bout de souffle, il ne cesse de commettre des crimes et de tuer des innocents. Il s'attaque avec ses armes aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et aux jeunes non armés. Il les emprisonne et les torture, démolit les maisons, détruit les fermes et les biens. Les menteurs en Europe et aux États-Unis, qui font de grands discours sur les droits de l'homme et créent ce tumulte sur la question de l'Ukraine, gardent un silence total face à tous ces crimes commis en Palestine. Non seulement ils ne défendent pas les innocents, mais ils aident aussi ce loup assoiffé de sang. La résistance consiste à lutter contre le terrorisme international, à aider les résistants du Yémen dans la guerre qui leur est imposée, à combattre les occupants sionistes en Palestine et à les mettre à genoux avec l'assistance divine. Grâce à ces efforts acharnés, la résistance met également de plus en plus en évidence la question d'Al-Rots et de la Palestine dans l'opinion publique internationale. La République islamique d'Iran encourage et soutient le camp de la résistance. Elle encourage et soutient la résistance palestinienne. Nous l'avons toujours dit, nous avons toujours agi en conséquence et nous l'avons toujours soutenu. Nous condamnons la politique de normalisation des relations. À la fin de mes propos, j'adresse mes salutations aux âmes des martyrs palestiniens. J'envoie mes salutations à leurs familles patientes. J'envoie mes salutations aux Palestiniens, captifs et prisonniers, qui résistent avec une ferme détermination. Je serre la main de nos amis et compagnons palestiniens résistants, qui ont entrepris d'assumer une part importante de cette grande responsabilité, et j'appelle l'ensemble du monde de l'islam, en particulier la jeunesse, à participer à ce combat digne et honorable. Toute louange appartient à Dieu, Seigneur de l'univers. Sayed Ali Khamenei, 28 avril 2022.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Dans la nuit de 25 à 26 mai, plusieurs unités militaires turques ont franchi la frontière de la Syrie. L'artillerie de l'armée turque a pilonné en effet les positions dans différentes localités en banlieue d'Alep, sans pour autant aller attaquer en effet l'armée syrienne. Cette offensive intervient 48 heures après un discours du président turc Recep Tayyip Erdogan qui avait menacé en effet de lancer une offensive d'envergure dans le nord de la Syrie pour créer prétendument une zone de sécurité de 30 km le long de la frontière, mais aussi pour combattre les miliciens du PKK, parti du travailleurs en effet, du Kurdistan irakien. L'armée turque mène depuis la mi-avril des opérations dans le nord de l'Irak visant les positions du PKK et le chef d'État turc a en effet annoncé, envisagé une opération similaire dans le nord de la Syrie. Cette offensive intervient au moment où la Russie fait profil bas en Syrie en raison de la crise ukrainienne et au moment où, en effet, la Suède et la Finlande, en effet, ont remis leur demande d'adhésion à l'OTAN. Cette offensive intervient également après la visite du chef de la diplomatie turque en Israël. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser ces derniers développements concernant la Syrie et l'offensive turque dans le nord de ce pays. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Quelques heures après le début de l'offensive turque contre le nord de la Syrie, où la Turquie a pour mission de créer de concert avec Israël une zone de sécurité de 30 km de long avant de s'emparer d'Alep et de s'offrir de quoi cibler la flotte méditerranéenne de la Russie, l'aviation russe a lancé un premier avertissement. Des avions de combat de la force aérospatiale russe ont effectué une série de frappes aériennes simulées au-dessus des zones occupées par la Turquie dans le nord-est de la Syrie. Les frappes aériennes simulées, qui ont commencé mercredi 25 mai tard dans la nuit et qui se sont poursuivies jusque lendemain matin, visaient la périphérie de la ville de Tel Abyad au nord de Raqqa et la ville de Ras Al Ain au nord de Hasakeh. Des sources locales ont signalé plusieurs fortes explosions dans le ciel. Les frappes aériennes russes étaient probablement destinées à envoyer un message à l'armée turque et à ses mandataires qui se prépareraient à lancer de nouvelles opérations à grande échelle dans le nord et le nord-est de la Syrie. Lors d'une conférence de presse suivant une réunion du cabinet tenue le 23 mai, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait fait part d'une opération militaire imminente en Syrie destinée à relier deux zones déjà sous le contrôle des Turcs. Une nouvelle opération turque dans le nord et le nord-est de la Syrie violerait plusieurs accords de désescalade signés avec la Russie et risque de déclencher une confrontation directe entre l'armée syrienne et les forces d'occupation turques. La Russie ne s'est pas encore officiellement exprimée à propos d'une intervention dans le conflit entre la Turquie et la Syrie. Cependant, étant donné que la Syrie est l'un des alliés les plus importants de Moscou dans la région, la Russie s'opposera catégoriquement à toute nouvelle opération turque. Alors que le ciel syrien se barricade quasi hermétiquement, reste à savoir si Erdogan est la partie qui pourrait l'aider à inverser cette tendance. Quant à la réaction russe contre cette convoitise anti-Alep, anti-Tartus, elle pourrait s'illustrer par un S-300 en colère qui chasserait les FCS turcs, voire sionistes. Après tout, aussi bien la Turquie qu'Israël ont déjà abattu des avions russes dans le ciel de la Syrie.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, et depuis Paris avec Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Madame Idani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Et bonjour à Monsieur Develay, votre invité.
Madame Idani, une nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie dans la nuit de mercredi à jeudi. L'artillerie turque qui a pilonné plusieurs localités à proximité, en effet, d'Alep. Comment s'explique-t-elle cette nouvelle convoitise turque? Est-ce que là, il s'agit d'une nouvelle velléité expansionniste du président Erdogan en pleine crise ukrainienne au moment où les tensions, comme vous le savez, montent au sein de l'OTAN à cause de l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Et la Turquie a menacé de faire barrage justement à cette adhésion. Et d'autant plus que cette nouvelle opération, cette nouvelle offensive, en effet, intervient alors quelques jours après la visite du chef de la diplomatie turque en Israël.
Alors, en fait, les velléités d'expansion de Erdogan ne sont pas nouvelles. Il a toujours été, je rappelle quand même que la Turquie a été un petit peu réellement la tête de pont de l'agression contre la Syrie depuis 2011, que c'est par la Turquie que tous les terroristes ont filtré dans par la frontière turque, en fait, sont arrivés en Syrie, que la Turquie a dirigé et dirige toujours des hordes terroristes dans le nord de la Syrie, tout ça sous prétexte de lutter contre les Kurdes en nord de la Syrie. Je voudrais rappeler quand même que la Turquie est une force importante de l'OTAN, donc obéit aux ordres américains, puisque c'est les États-Unis qui dirigent l'OTAN, d'une part. D'autre part, de la même manière d'ailleurs qu'Israël et vice-versa. D'un autre côté, l'offensive turque sur la Syrie, sur les frontières syriennes, n'est pas nouvelle, donc elle date bien depuis 2011, que cette histoire de zone de sécurité à l'intérieur de la Syrie a été brandie au début de l'agression contre la Syrie. Elle a été contenue et limitée effectivement par les accords d'apaisement qui ont été menés par la Russie. Il est clair que à chaque fois que la Turquie ou les terroristes perdaient du terrain, la Turquie venait à leur rescousse, d'une part. D'autre part, ils prétendent aussi être contre les forces dites kurdes de Qassab et opposé à la création d'un État kurde dans le nord de la Syrie et donc opposé à la séparation ou au dépeçage de la Syrie. Ils ont quand même signé tout un tas de traités, et notamment ils ont signé Astana qu'ils n'ont jamais, et les accords d'Astana qu'ils n'ont jamais appliqués. Ils ont signé des accords dans lesquels ils s'engageaient à dégager les autoroutes M4, M5, et puis pousser les terroristes à l'extérieur à 6 km de part et d'autre de ces autoroutes, chose qui n'a rien été, et il n'en a rien été. Je rappelle qu'en 2018-2019, l'armée arabe syrienne a gagné aussi, elle s'est engagée dans des combats très important aussi avec les terroristes à Jisr Shghour et à Riha dans le nord d'Idlib. Et là, c'est Erdogan est allé quémander un entretien à Poutine, et au cours duquel le 5 mars, justement, cet accord a eu lieu. Justement où il devait s'engager, et il avait délai jusqu'en juin de 2019 pour se retirer, mais il n'a jamais appliqué tous ces accords qu'il a signés, honoré les traités qu'il a signés au sein des accords d'Astana et des zones d'apaisement. Donc en fait, il est clair que Erdogan traite aussi, en fait, aussi avec les Israéliens. L'objectif, c'est aussi un peu encercler la Syrie. Et ça, c'est très grave. En fait, là, aujourd'hui, il se sent encore plus fort du fait que la Russie est occupé peut-être avec l'Ukraine, mais à mon avis, il se trompe parce Merci. Que de toute façon, la Russie honore aussi tous ses engagements. Et à propos de la Syrie, ça va se retourner contre la Turquie, en fait, qui joue aussi un mauvais jeu ou un sale jeu vis-à-vis de la Russie, aussi bien vis-à-vis de l'Ukraine, puisqu'ils fournissent des avions et des munitions aussi au régime de Zelensky. Et puis, d'un autre côté, ils jouent aussi de l'autre côté, ils essayent de jouer quand même pour la Russie, en s'opposant à l'accès de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.
Merci, Madame Edeni. Je vous remercie infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Damas, Maître Arnaud Develle, juriste international. Maître Develle, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous et bonjour à Madame Midani.
Alors, concernant toujours cette nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie, Madame Midani l'a rappelé, elle viole bien sûr plusieurs accords de désescalade signés avec la Russie. Dans quel contexte replacez-vous, Maître Develle, ce nouveau jeu du président Erdogan? Est-ce que là, il y a une coordination, une connivence entre les États-Unis et Israël concernant cette nouvelle offensive turque?
Écoutez, je pense que cette coordination n'a jamais vraiment cessé. Erdogan avait, au travers de l'opération Rameau d'Olivier, tenté de procéder, et il a réussi en grande partie à une forme de nettoyage ethnique dans les zones envahies par l'armée turque. L'idée étant de préparer le terrain, si je puis dire, pour ce que le président turc a annoncé, sous couvert, bien sûr, c'est toujours un peu le même mantra, se protéger des actions terroristes du PKK. Ce qui laisse un peu penser que quelque part, il prend ses leçons à Washington. Vous l'avez souligné, en même temps, la coordination avec les Israéliens est évidente. Mais j'allais dire aussi avec le Qatar, puisque nous avons eu des rapports récents de rencontres haut niveau entre les cadres de la soi-disant armée syrienne libre. Et on sait maintenant que l'objectif en ce qui concerne cette opération, qui pour l'instant est au stade de préparer l'opinion publique turque pour la réinjection de près d'un million de réfugiés, mais plutôt pro-Ankara, dans la région en question, fusionner les commandements de HTS, donc Al-Nusra, Al-Nusra en Syrie, Al-Qaïda en Syrie, et donc la SL. On peut penser que si cette opération venait à prospérer, entre guillemets, cela poserait bien sûr un problème stratégique important pour Damas, parce que cette zone pourrait alors être une rampe de lancement pour la résomption d'opérations visant à opérer la politique du changement de régime, mais aussi pour la Russie, bien sûr, puisque étant à quelques encablures des bases russes, n'oubliez pas que l'objectif de l'OTAN, c'est aussi d'éjecter et d'expulser la Russie de la région. Donc tout ça est cousu de fil blanc. On peut ajouter que quelque part, en s'emparant aussi des ressources de portes sur l'eau, Erdogan viole aussi le droit humanitaire, les conventions de Genève, les conventions de la Haye, et que dans ce contexte-là, il s'est affranchi maintenant, bien sûr, non seulement de toutes ses obligations internationales, plus précisément, comme l'a souligné Dr Midani, des accords d'Astana qu'il avait signés il y a à peine 2 ans et demi de cela, mais aussi qu'il joue un jeu, effectivement, parce que tout est connecté entre la Syrie et l'Ukraine. Je renverrai nos auditeurs à la doctrine énoncée par la Fondation RAND, qui consiste aussi à créer tous ces théâtres d'opération pour épuiser la Russie, et que dans ce contexte-là, avec effectivement l'annonce de la volonté d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, on retrouve encore le bon opératoire d'Erdogan, qui est de celui de initialement laissé entendre qu'il s'opposera à ces adhésions, mais c'est pour mieux en fait annoncer la couleur qu'il veut négocier et il veut quelque chose en retour. Alors, on a entendu dire qu'il y avait eu des rumeurs qui circulaient selon lesquelles il avait approché le président russe en lui disant « tu me donnes la carte, le chemin libre, la voie libre à Idlib et j'appose mon veto ». On peut penser que c'est de la désinformation puisque l'État russe est très légaliste et en aucun cas ne se laisserait tenter quant à violer ses propres engagements vis-à-vis de Damas. Merci. Mais vous voyez, c'est un peu le mode opératoire d'Ankara et en ce contexte-là, on est en pleine doctrine Erdogan, si je puis dire.
Merci pour ces éclairages. Maître de Velay, restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Ideni, quelles seront les répercussions sécuritaires et stratégiques de la nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie? Alors, vous avez rappelé tout à l'heure, peut-être en raison de la crise ukrainienne, alors la Russie serait en quelque sorte contrainte de retirer ses forces, d'une partie au moins de ses forces de la Syrie. Donc, mais cela a permis, bien sûr, selon de nombreux observateurs à la République islamique d'Iran, de renforcer la DCA donc de l'armée syrienne. Est-ce que cela ne risque pas de déclencher une confrontation directe entre l'armée turque et l'armée syrienne?
Écoutez, je crois que depuis un certain temps, effectivement, il y a des provocations turc, en fait, vis-à-vis de la Syrie, les bombardements incessants des villages de la frontière syrienne, aussi bien du côté de Ras el Ain que du côté de Hasakeh, et aussi du côté d'Alep. Hein, ils ont été vraiment incessants. Cette opération, je crois, qui vise effectivement à élargir d'ailleurs même l'influence, les lieux d'influence des Turcs à l'intérieur de la Syrie, ajouté au fait qu'il y ait eu des constructions de maisons qui ont été distribuées aussi soi-disant aux réfugiés syriens à l'intérieur de la Syrie et que c'est un véritable changement ethnique, je dirais, des territoires aux frontières de la Syrie, aux frontières syriens, aux frontières de la Turquie. Donc en fait, effectivement, je crois que de toute façon, on va vers une confrontation totale avec l'armée turque, qui malheureusement, jusqu'à maintenant, a été plus ou moins stoppée par nos amis russes pour des considérations en fait d'apaisement, justement, et puis de résolution, je dirais, un peu pacifique, évitant vraiment des grosses destructions, comme c'est effectivement dans la doctrine russe et d'ailleurs même la doctrine syrienne, qui est la patience stratégique et qui a donné ses résultats par rapport à la population. Or, aujourd'hui, effectivement, les Turcs, Erdogan est impatient parce que la progression d'une part de la résistance populaire en Syrie a augmenté de manière assez importante. De l'autre côté, les réconciliations et puis l'effet de cette loi d'amnistie qui a été faite par le président Assad fait que nombreux combattants, en fait, entre guillemets, nombreuses personnes qui étaient obligées de se battre aux côtés de Assad et aux côtés des terroristes rejoignent l'armée arabe syrienne maintenant et reviennent dans le giron de la patrie, chose qui est une véritable victoire, je dirais, sociale, qui vide le mouvement Assad de sa substance. Et de ce fait, d'ailleurs, je rappelle quand même qu'au-delà même des attaques militaires, il y a le vol et le pillage des ressources syriennes de blé, de coton, du pétrole syrien et du gaz syrien qui aujourd'hui sont pillés ouvertement par les Américains, mais qui avant étaient soi-disant pillés par les terroristes, mais qui transitaient vers la Turquie et qui profitaient.
Merci, Madame Denis.
Aux entreprises du fils de Erdogan, oui. De Bilal Erdogan. Donc, tout ceci est dur depuis 10 ans.
Merci, Madame Denis.
Là, effectivement, on va finir par peut-être une confrontation, mais je crois que la Syrie évite cette confrontation aussi pour qu'il n'y ait pas beaucoup de victimes civiles. Ce sont des régions, quand même, il faut savoir, qui sont pas seulement des régions riches et importantes, mais aussi des régions où il y a beaucoup qui sont peuplées par
merci,
les Syriens, qui sont bien peuplées.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître de Velay. Maître de Velay, il nous reste 2-3 minutes. Il semblerait qu'il existe un projet, en effet, commun entre Israël, entre la Turquie d'une part et d'autre part le tandem américano-israélien, à savoir contrer, en effet, la DCA intégrée et renforcée de la Syrie, épaulée, bien entendu, par l'Iran. Alors, qu'est-ce qui va sortir de cette confrontation, de ces combats, de ces affrontements, au moment où, comme vous le savez, l'armée israélienne a également multiplié ces derniers temps ses frappes aériennes contre la Syrie?
Bah, écoutez, le temps est difficile à prévoir. Ce que l'on sait d'une manière certaine, c'est que l'incise, si je puis dire, de cet renouvellement, de cette réactivation du plan qui vise à effectuer un changement de régime, passera par la Turquie. Et en cela, je rejoins tout à fait Mme Bidani quand elle dit que Erdogan s'impatiente. Pourquoi ? Parce qu'en interne, il est confronté à une situation économique catastrophique, ce qui explique tous ses voyages dans la région récemment, où il a tenté de se rapprocher avec les Saoudiens, mais aussi avec les Israéliens, vous l'avez souligné. Et dans ce contexte-là, cette politique, si je puis dire, ambivalente qu'il cultivait depuis environ 4-5 ans, commence de moins en moins à lutter, si je puis dire. Il est obligé de revenir dans le giron. Et je pense que, eu égard à effectivement cette situation à laquelle il est confronté, n'oublions pas que les élections présidentielles auront lieu l'année prochaine en Turquie, que c'est supposé marquer le centenaire de la révolution turque, donc c'est quelque chose qui a à cœur à Erdogan, et je pense que dans ce contexte-là, il a à cœur de, si je puis dire, évacuer une partie de la pression interne dans ce projet de colonisation au nord de la Syrie, mais au-delà de ça, maintenant, c'est quelque chose qui nécessiterait un financement pérenne de la zone en question, et cela, la Turquie n'a pas les moyens de le faire. Donc, on peut penser qu'une fois le processus de colonisation, la rampe de lancement, puisqu'il s'agit d'une rampe de lancement, sera activée avec l'idée de s'emparer de davantage du territoire syrien.
Merci infiniment, Maître Arnaud de Velay, juriste international depuis Davos. Je remercie également Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales, qui était en ligne avec nous depuis Paris. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Parvin était Sami, le bourgeon qui n'a pas pu éclore. Parmi les classiques de la poésie persane se trouve un grand nombre d'hommes qui, depuis longtemps, contribuent à illustrer notre littérature. Cependant, les femmes sont absentes en la matière. À part Rabé Bint Kaab, qui est peu connue du grand public, nous n'avions pas vu d'autres figures marquantes jusqu'à l'apparition du grand génie de la poésie persane, Parvin Etesami. Celle-ci est connue comme la plus célèbre femme de la poésie persane. Elle naquit en 1910 à Tabriz. Protégée par son père, Etesam Olmolk, le grand et illustre journaliste de l'époque, elle bénéficie dès son enfance d'une éducation raffinée. Elle fait ainsi l'apprentissage de langues variées, dont l'arabe et l'anglais. En même temps, elle commence à écrire des poèmes. Sa poésie a effectivement trait à la sagesse persane et figure dans la lignée des grands classiques tels que Nasser Khosrow. Elle fait donc figure de grande moraliste dans son œuvre. Recourant à un symbolisme particulier, elle s'efforce effectivement de dénoncer l'injustice royale, son oppression des pauvres et des faibles. Elle affectionne particulièrement les pauvres et les orphelins dans son œuvre. Vous voilà quelques poèmes de cette grande poète persane, Parvin Etesami. Le grand dénoueur. Il y avait un vieillard, accablé de malheur, qui menait une vie dure et pleine de douleurs. Avec maintes misères, il avait des algarades, son fils et sa fille, tous les deux malades. L'un implorant remède, l'autre voulant médecin, et leur pitance des larmes et du chagrin. Il ne trouvait ni miel ni soupe à siroter, drap de l'un déchiré, robe de l'autre déchiquetée. Le jour, le vieillard allait à travers rue. Il quémandait du pain au prix de sa vertu. Vers n'importe qui, le vieux tendait la main, espérant obtenir une miche de pain. La nuit, déshonoré, il retournait chez lui, brisé, endolori, accablé par l'ennui. Le jour, il mendiait, soignait les siens la nuit. Honteux le matin en dehors, il était le soir chez lui. Un matin, il sortit pour quémander son pain, mais les prodigues mêmes ne lui donnèrent rien. Traînant d'une porte à l'autre, le visage marqué, au moment de rentrer, l'audace lui manquait. Enfin, il décida de se rendre moulin. Le meunier lui offrit une poignée de grains. Son sac de blé noué fermement sur le dos, le vieillard s'en alla s'adressant au Très-Haut. Quand tu tends vers nous autres généreusement la main, tu dénoues le lacis si serré soit le lien. Que puis-je faire alors en cet hiver gelé? Ma santé si fragile, ma famille affamée. Si se trouvait quelqu'un pour m'acheter ce blé, je pourrais acheter des lentilles du mielé. Souvent tu dénoies des problèmes les nœuds. Dénoue donc celui-ci, je te prie, ô mon Dieu. Ainsi implorait-il en suivant son chemin, quand soudain sur la route il vit ses propres grains. Il vit que ses prières lui avaient porté tort, son sac dénoué et les grains odeur. Ô grand Dieu de justesse, lança-t-il agacé, que n'as-tu entendu le sens de ma pensée? Depuis la nuit des temps, tu agis divinement. Que n'as-tu distingué ces deux enlacements? On te dit clairvoyant, mais tu fis cette erreur. Un homme aurait bien mieux assumé ce labeur. Ai-je à ce point eu tort quand je t'ai demandé de dénouer ce nœud et de me seconder? Jamais je n'avais vu un Dieu tel que toi. En déliant mon nœud, tu fis le mauvais choix. Bref, notre pauvre homme s'accroupit, fulminant pour ramasser les graines étalées dans le vent. Alors qu'il se penchait pour ramasser son blé, sur le sol il trouva une bourse abandonnée. Tombant prompt à genoux, il dit, « Ô mon très cher, aurais-je pu deviner ce que tu comptais faire? Malheur venant de toi a une vraie saveur. et quand tu appauvris, c'est une vraie faveur. Tes actes vont plus loin que notre entendement. La nature est de toi et tout le firmament. Si quelqu'un, par tes soins, contracte une maladie, c'est toi au bout du compte qui un jour le guérit. Des médiocres d'ici m'ont refusé un plat, afin que je quémande à toi seul mon repas. Tu rends exprès malade l'homme en bonne santé, qu'il apprenne que tout tient de ta haute volonté. Traînant de porte en porte, selon ton bon vouloir, j'ai pu te reconnaître au fond de ma nuit noire. Dans cet état j'étais, malmené par le sort, afin de te chercher pour t'honorer plus fort. Car je ne savais pas, dans les rues quémandant, que tu nous exaucais, Seigneur, à tout moment. J'avais tant vu de riches et de gens généreux. Jamais j'en avais vu la largesse de Dieu. De saisir ces chemins, ô parvine incapable, tu sauras désormais qu'il est insoupçonnable. Rabbi Bint Kab Gosdari est la plus ancienne des poétesses connues de la langue persane. Contemporaine de Rudaki, elle naquit probablement dans la première moitié du 4e siècle de l'Égypte. Issue d'une lignée princière, elle bénéficia dès son plus jeune âge d'une éducation éclectique et raffinée. Hédayat la considère, dans Majma al-Fosaha, séduisante et dotée d'une véritable finesse d'esprit. Sa poésie reflète en particulier l'expression sincère de la passion amoureuse. Mais selon Jami, qui la situe dans Nafarat al-Ons, parmi les plus grands mystiques de son temps, son amour n'est pas d'ordre terrestre, mais relève plutôt de la fine spiritualité. Il ne reste malheureusement de son œuvre que quelques vers épars, exaltation lyrique des sentiments humains, de la douleur de l'absence et de la beauté de la nature.
Thank you.